Bonsoir. Les journalistes congolais appelés à dénoncer toute invitation à la violence et à la tribalisation des élections, c'est ce qui ressort d'un café de presse organisé lundi à Kinshasa par la structure Internews RDC sur le thème « Comment limiter les violences politiques en période électorale ?» Les animateurs de cette conférence ont exprimé leur vive inquiétude de constater que les propos de violence et de tribalisme sont principalement véhiculés par certaines autorités politiques du pays et relayés par certains médias. Quelle analyse faire du rôle des médias dans le processus électoral en cours? C'est la question au débat de ce soir et pour en parler, nous serons avec Fidèle Moussangou, coordonnateur du journal Le Phare, paraissant à Kinshasa. Fidèle Moussangou, vous êtes au téléphone, bonsoir.
Bonsoir, confrère.
Ici au studio de Radio Okapi, Marcel Ngoy, bonsoir.
Bonsoir.
Éditeur du journal La Prospérité, paraissant à Kinshasa. Et enfin, toujours au studio de Radio Okapi, Jean-Marie Kassamba, président de l'Union Nationale de la Presse de la République Démocratique du Congo, bureau de Kinshasa, mais également directeur général et propriétaire de la télévision Télé 50 émettant de Kinshasa. Jean-Marie Kassamba, bonsoir.
Bonsoir.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Les journalistes congolais appelés à dénoncer toute invitation à la violence et à la tribalisation des élections, c'est ce qui ressort d'un café de presse organisé lundi à Kinshasa par Internews RDC sur le thème « Comment limiter les violences politiques en période électorale ?» Les animateurs de cette conférence ont exprimé leur vive inquiétude de constater que des propos de violence et de tribalisme sont principalement véhiculés par certaines autorités politiques du pays. Parmi eux, ces appels et la violence manifestent contre les cortèges de certains candidats de l'opposition sont des signaux inquiétants qui n'augure pas d'une acceptation paisible des résultats, le récit de Michel Kifinda.
Dans son intervention, le porte-parole du mouvement citoyen Le Congolais Debout affirme craindre que la RDC ne plonge dans une crise profonde si rien n'est fait de manière substantielle pour prévenir la violence. Pour lui, les incitations à la haine tribale, les appels à la violence sont beaucoup plus effectués par les autorités du pays, dont certains ministres et gouverneurs des provinces. Hervé Diakessi.
Les tribalismes, l'incitation à la violence, à la haine ou à la discrimination sont des infractions punies par la loi et ne sont pas autorisées. Mais aujourd'hui, il faut remarquer que la plupart des autorités politiques ayant des responsabilités gouvernementales s'autorisent à tenir de tels propos et que ces propos sont relayés dans les médias et ça c'est inadmissible.
Le chef du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Antenne de Kinshasa, invite pour sa part les dirigeants de la RDC à faire appliquer la loi en la matière. Alidou Akpani.
Pour limiter la violence, il faut que l'État réagisse. Il faut la lutte contre l'impunité. Que les propagateurs de violence, les incitateurs, qu'il y ait des enquêtes qui soient ouvertes contre eux. Il faut également la responsabilité des partis politiques, que les responsables politiques prennent des engagements fermes de ne pas propager la violence.
Le député national Patrick Muyaya invite quant à lui les journalistes à beaucoup plus de rigueur et de responsabilité dans le traitement de l'information.
Fidèle Moussangou, loin des yeux, près du micro, c'est avec vous que nous allons commencer. Coordonnateur du journal Le Phare, paraissant à Kinshasa, les autorités sont pointées du doigt, mais également la presse dans la violence, dans la campagne électorale en cours. Votre réaction? Allô, Fidèle Moussangou?
Oui, du confrère.
Alors, les autorités du pays sont bien évidemment pointées du doigt en ce qui concerne la violence, selon Internews, mais également la presse du pays. Votre réaction?
Non, d'abord, il y a une preuve qui vient d'éclater. Parce que le gouverneur de la ville vient de mettre un terme au processus électoral en demandant aux candidats de ne plus continuer avec la campagne électorale. En violation de la loi sur le processus électoral. Il n'est pas autorisé d'intervenir pour le moment. Nous sommes à 3 jours, disons pas moins 2 jours de la fin de la campagne. Il arrête le processus de campagne en vertu de quel pouvoir? Ça, c'est un. Deuxième élément, regardez ce qui se passe souvent ici. Mais le comportement qui date depuis longtemps, le pouvoir actuel a toujours usé de la violence. Rappelez-vous le nombre de morts qu'on a eu ici en ville quand les gens voulaient manifester pour demander carrément que la CENI donne le clan électoral. On a tué des gens même dans les églises. Je prends la fille Kapanga. Hein? Je prends l'activiste des droits de l'homme Rossi Mukendi. J'en prends d'autres, des activistes des hommes de Loucha et compagnie qui sont en prison. C'est toujours des actes de violence. En même temps, n'oubliez pas que cette histoire de coupage territorial est une stratégie montée dans un pays voisin pour réintroduire le tribalisme au Congo. Parce que, comment voulez-vous, en violation même de ce que les conférenciers de la conférence des Nations Unies avaient prévu pour le découpage, il était question d'abord de voir si telle entité territoriale a rempli les conditions pour être viable et si les populations sont d'accord. Ils sont allés comme ça, brusquement, ils ont créé des provinces non viables. Dites-moi aujourd'hui, la province de Kwangui va gérer quoi? Quelle recette? La province de Chouapa, il y a beaucoup de provinces qui ne sont pas générables. Ça crée des problèmes parce que les habitants de ces provinces, quand ils vont chercher du travail, ils vont aller dans la partie qui est viable. Et ils vont créer un problème.
Alors,
c'est ça qu'elle a dit. Ça vous dit que ce sont les autorités, c'est le pouvoir actuel qui a toujours comme cheval de bataille la violence.
Alors, Fidel Moussangou, vous considérez tous ces faits comme étant de la violence venant des autorités, c'est ça?
Oui, la violence.
Oui,
mais... C'est suspect, c'est en même temps criminel.
Alors, dans le séminaire animé en début de semaine par la structure Internews, RDC, cette structure regrette justement que lorsque les violences sont publiées, lorsque les violences sont commises, les médias, malheureusement, relaient ces violences, un peu comme ce que vous faites en ce moment, non?
Écoutez, moi je suis professionnel de médias. Dans mon journal, on ne fait jamais des choses pareilles. On ne peut pas relayer des messages de haine, jamais. Parce que c'est interdit même par la déontologie professionnelle. Les confrères qui m'écoutent et qui sont là savent que c'est interdit par la déontologie professionnelle. Ça, c'est un. Et c'est punissable pas au niveau de la commission des disciplines et même plus tard devant le juge pénal. Ça, c'est un. Mais vous avez des médias ici. Regardez les médias. Il y a des médias qui passent leur temps à envenimer la haine des autres à cause de leur appartenance tribale ou clanique, des autres. Il y a des médias bien connus, soit par des débats, soit par des émissions. Et voilà comment la violence, voilà comment la radio Milcolin travaille au Rwanda pour voilà comment la radio Milcolin travaille au Rwanda. Des médias de haine, des messages de haine, des analyses de haine. C'est ça le problème.
Alors,
donc, des analyses, des incitations à la haine par des analyses et trop intéressées.
Alors,
c'est ça.
Fidel Moussangou, vous dénoncez et vous faites remarquer que l'apologie de la violence est interdite en journalisme. Mais pourquoi pensez-vous que certains médias succombent à cela, notamment lorsque des acteurs politiques fustigent un candidat et le présentent comme indésirable? Les médias reprennent exactement la même chose.
Non, parce que nous avons une faiblesse au niveau des organes. Les organes de régulation, par exemple, et les organes, n'est-ce pas, d'autorégulation, notamment la commission de discipline de l'UNPC, et surtout le CESAC. C'est le CESAC qui est chargé de contrôler, n'est-ce pas, la régulation des médias. Mais c'est ça qui est devenu fantaisie, parce que le fait dire que les gens qui sont là ne sont pas payés, et puis ceux qui sont là, ils ont dépassé leur mandat. Depuis 2 ans, nous avons choisi les autres, mais le président de la République refuse de signer l'ordonnance pour nous nommer les autres, notamment Serge Kabongo. Nous l'avons élu. Tous ont été élus, ils sont là, ils attendent. La présidence refuse de signer. Et les anciens qui sont là, ils sont fatigués, ils vivent sur le qui-vive, ils savent que demain ils doivent échanger. Alors, et puis il n'y a pas de finances. Ils travaillent sans être payés, ça va les fois des fonctionnaires. Il y a un moment donné, ils n'avaient pas du courant parce qu'il y avait une facture qui arrivait à 1 000 $. C'est pas payé ça.
Alors, Les journalistes de la RDC, tous sont au courant du livret qui doit être le livret de leur chevet professionnel, le code de déontologie qui interdit un certain nombre de faits, y compris la violence et l'apologie de la violence. Pourquoi les journalistes qui sont au courant de ça continuent malgré tout de favoriser la violence?
Parce que beaucoup de médias appartiennent aux hommes politiques. Je peux vous en citer, vous en avez à côté, aux hommes politiques. Beaucoup de médias relaient des messages provenant des services de sécurité, militaires ou civils. Beaucoup de médias relaient des messages donnés par des hommes politiques qui vont régler les comptes avec les autres adversaires au niveau tribal, dans la province ou dans le pays. C'est ça le problème. Et puis, comme ce sont tous, ils sont protégés par le pouvoir, on ne leur fait rien. Et même la commission des disciplines, même si elle prend des décisions, parce que, écoutez, la commission peut sanctionner un journaliste. Demain, vous voyez encore. Aujourd'hui, j'ai croisé un journaliste qui portait un t-shirt avec les insignes d'un parti politique. Il dit non, confrère, ça ne se fait pas. Vous n'êtes pas. Il m'a dit, je m'en fous. Voilà ce qu'il m'a répondu. J'étais avec Baudouin Kamanda.
Merci.
Il m'a dit, je m'en fous. Je m'en fous. Et, ce qui fait que, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? S'il y a des gens qui s'en fichent parce qu'ils sont protégés par telle autorité, tel général, tel colonel, tel ceci. Alors écoutez, c'est ça le média. Nous sommes battus pour ça, pour avoir ça, mon cher ami. Moi, je me suis battu personnellement pour avoir les organes de régulation, d'autorégulation, pendant beaucoup de séminaires.
Merci Fidèle Moussangou. Marcel Ngoyi, éditeur du journal La Prospérité paraissant à Kinshasa, votre lecture sur le rôle de la presse, surtout dans la période électorale en cours en République démocratique du Congo. Partagez-vous déjà la perception de Fidèle Moussangou ou pas?
Bon, je ne peux pas dire que il n'y a pas de matière à retenir dans ce qu'il vient de dire. Ce sont des matières qu'il faut verser dans la réflexion. Moi, je crois que le rôle que le média doit jouer en cette période est un rôle crucial, un rôle primesautier, un rôle central. Parce que, comme vous le savez, l'information est à la nation ce que le sang est au corps humain. Un corps sans sang, c'est un corps qui est inanimé, qui peut souffrir de l'inanition. Et donc, il faut faire en sorte que le sang circule dans les veines pour que le corps puisse vivre. Ainsi, la nation tout entière a besoin de journalisme et même du travail de qualité. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le rôle repose sur une sorte de triptyque. Informer, former et transformer les consciences. Donc le rôle d'éducation, le rôle de pompe aspirante et refoulante, donc vous aspirez les informations de toutes sortes. Mais il faut un traitement, parce qu'en fait, dans la pratique professionnelle, le journaliste n'est pas voué à l'exhaustivité. Son rôle n'est pas de jouer d'être une sorte de caisse de résonance pour une restitution textuelle de tout ce qui s'est fait, de tout ce qui s'est dit. Et c'est pourquoi il y a des normes. Il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. Et cette limite est tracée, heureusement, par le code d'éthique et de déontologie qui, en fait, constitue ce qu'on appelle les vademecum, ou la Bible du journaliste. Et ce code édicte un certain nombre de principes auxquels le journaliste doit être attaché. Et c'est pourquoi ces principes doivent être même comme des valeurs, les valeurs cardinales auxquelles il faut être attaché. Et par conséquent, il faut sortir des clivages, il faut sortir des cercles vicieux, et il faut sortir du carcan de l'enfance, éviter surtout d'évoluer sous la coupe réglée des partis et regroupements politiques.
Alors,
à ce moment-là, il faut une certaine indépendance d'esprit dans le traitement. Il faut prendre des lignes éditoriales qui permettent de prendre une certaine distance sans prendre parti de ce qui se passe. Alors, la carence à laquelle vous faites allusion, qui fait que certains médias relayent des messages de haine et tout ça,
aveuglément,
c'est lié pratiquement au fait que certains journalistes, certains médias sont alignés, prennent position parce qu'ils sont alignés. Ils ne peuvent pas évoluer d'eux-mêmes.
Ils doivent satisfaire aux exigences de leur employeur.
De l'autonomie de gestion, de l'indépendance financière et même de l'organisation. Lorsque vous êtes lié, vous avez les mains et les pieds liés par rapport à un système, par rapport à un groupe d'hommes politiques, vous êtes censé à ce moment-là véhiculer à tout prix le message du groupe au nom duquel vous roulez. C'est ce qui fait que ça revient dans la société comme de petites bombes, comme des petites flammes qui peuvent embraser toute une forêt. Et je pense que c'est au niveau même de la conception qu'il faut agir. Et pour y arriver, il faut une autorégulation. Et comme Fidel l'a dit, il parlait tout à l'heure de l'instance de régulation, la commission de discipline, mais il y avait aussi l'observateur des médias congolais. Il y a toute une série dont c'est ça qui faut réguler. Mais le journaliste lui-même, en tant que
citoyen,
vecteur d'information, c'est vrai qu'en tant que citoyen, le journaliste a un point de vue à émettre, a des choix à opérer. Mais en tant que média, il doit donner l'information. Il doit prendre une certaine distance vis-à-vis des actes, des actions politiques immédiates et ou ouvertes.
Alors, le journaliste sait que certaines anti-valeurs sont découragées, déconseillées, notamment la corruption, notamment la diffamation et l'apologie à la violence. Et il est même recommandé de faire preuve de la responsabilité sociale. Pourquoi le journaliste ne brandit pas ou n'utilise pas ce levier de responsabilité sociale qu'on lui recommande?
Mais c'est justement cela le problème de conscience professionnelle. La conscience tout court, tout être vivant, tout être humain vivant est doté d'une conscience. Mais ici, il s'agit de conscience professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut que cette conscience soit éclairée par les orientations, par les bornes qui sont tracées par les principes d'éthique et d'ontologie. Il y a aussi l'aspect du mercenariat. Dans la profession, il faut attaquer tel pour gagner un franc. Il faut dénoncer tel pour gagner 10 francs. Alors, comment, avec une telle presse, vous pouvez arriver à ramasser des informations de qualité et avec des informations à livrer? Il y a aussi l'aspect de l'évolution de la société elle-même. Vous avez aujourd'hui, Fidel l'a dit, un meeting qui devait se tenir. Un meeting est brutalement interdit. Alors, que reprocherez-vous à la presse qui va titrer demain sur cette interdiction ou non des meetings? Donc, quelque part, les médias constituent en fait un verre réverbère dans lequel, la société peut se mirer, peut se regarder.
Même si l'argument...
Comme là, par exemple...
Même si l'argument de l'autorité est que
l'inquiétude
sociale est menacée.
Ce sont des contraintes sécuritaires dont on ne peut mesurer ni la dimension, ni l'ampleur, ni fixer les limites. Mais... qu'à cela ne tienne, le fait d'interdire alors qu'une loi électorale existe, le fait d'interdire alors que le timing court, alors que tout le monde tient à faire passer son message, et vous comprenez que quelque part il y a une sorte d'entrave aux libertés. Maintenant, le lendemain, que reprocherez-vous à la presse qui peut, de manière tout à fait responsable, à apprécier dans un sens comme dans un autre le fait qu'on ait interdit un meeting devait se tenir?
Merci Marcel Ngoy. Jean-Marie Kassamba, président de l'Union nationale de la presse de la RDC, bureau de Kinshasa. Vous êtes aussi directeur général et propriétaire de la télévision Télé 50 émettant à Kinshasa. Doit-on réguler, limiter, orienter une information ou pas?
Bon, d'abord, je dois vous remercier de participer à ces débats que je trouve très démocratiques. Preuve en est que dans notre pays, depuis 1990, il y a effectivement liberté d'expression et la presse fonctionne, on ne peut plus naturellement. Moi, je ne vais pas vous suivre dans ces débats qui est concocté depuis quelque temps pour un seul objectif, c'est discréditer les processus électoraux. Parce que c'est un processus électoral organisé par les Congolais. Il faut créer ce qu'on appelle un climat belliciste, un climat alarmiste pour que ces processus dérapent et qu'on dise que, regardez, les Congolais ne sont pas capables d'organiser des élections eux-mêmes et que ça se passe normalement. Parce qu'il y a un certain nombre de gens, des causes, d'intérêts, qui ne souhaitent pas que ces processus se passent dans de bonnes conditions. Il n'y a pas pire ici qu'ailleurs. Et je pèse bien le mot. On est en train d'instrumentaliser les consciences faibles des Congolais. Pour expliquer quoi? Voilà, vous avez une presse irresponsable. Le gouvernement de votre pays est irresponsable. Mais on omet de dire, pas plus que ce matin, j'ai suivi sur Radio France Internationale, un papier de la consoeur qui correspondait ici, dire Félix Tshisekedi accuse Fayulu d'avoir monté une milice pour perturber sa campagne, qui a eu des événements à l'Est, c'est-à-dire Fayulu contre Tshisekedi. aujourd'hui dans les Bandundu, Fayulu contre Tshisekedi? Est-ce que Félix Tshisekedi est membre du gouvernement? Est-ce que Fayulu est membre du gouvernement? Non, il faut que quand Internews organise des conférences ou plutôt des points de presse, qu'on puisse dire des choses simplement que, comme l'a dit le Conseil de sécurité hier, nous appelons toutes les parties à la retenue. Toutes les parties veut dire gouvernement, opposition, société civile. Parce que nos jeunes gens des mouvements citoyens, etc., quelquefois qui prennent des postures aussi, qu'ils ne sont pas des postures de paix.
Mais Jean-Marie, Internews utilise quand même des proportions. Internews dit principalement véhiculé
non,
par les autorités.
C'est fait,
pas
à
totalement.
C'est fait à dessein pour stigmatiser le gouvernement congolais, pour culpabiliser les gouvernements congolais, parce que ce gouvernement organise les élections seul et qu'ils n'ont pas le contrôle de cela. Il faut pousser ces élections à être mal organisées et qu'on dise demain que voilà, les Congolais ne sont pas capables de faire des choses eux-mêmes. Moi, je ne vais pas vous suivre comme ça.
Mais
Jean-Marie
Kassamba,
pour répondre à votre question.
Jean-Marie Kassamba, vous êtes tous au courant, nous avec vous,
oui,
que tous les acteurs, aussi bien de la mouvance présidentielle que de l'opposition, ont dénoncé, il y a plusieurs jours en arrière, qu'il y avait des faits de violence, qu'il y avait des dérapages.
Je suis d'accord.
Que des gens sont même décédés et blessés.
Je suis tout à fait d'accord.
Voilà, tout le monde a fait un appel à l'apaisement et au calme.
Effectivement.
Donc la violence existe.
Oui, ça existe comme ça peut exister partout dans le monde. Les gilets jaunes en France, face au CRS, il n'y a pas de violence? Il y a des violences en France. Il y a des violences au Moyen-Orient.
Donc
Internews, il y a des aux
Internews fait bien de mentionner qu'il y a violence et que principalement
alors il ne faut pas stigmatiser le gouvernement congolais comme s'il y avait des ministres bellicistes qui insultent les gens qui appellent au racisme, etc. Il y a dans les acteurs politiques congolais de part et d'autre, des gens qui ont des langages parfois qui débordent.
Et pourquoi, selon vous, la presse, dont vous êtes d'ailleurs un des animateurs à Kinshasa, pourquoi la presse, sachant tout cela, que tout arrive un peu partout à travers le monde, pourquoi la presse ne prend pas son rôle de protéger la population contre un relais brutal
d'abord,
de ces informations?
D'abord, en ma qualité de président de l'UNPC Kinshasa, nous nous concertons régulièrement avec le CESAC, avec le structure de régulation, pour gérer, pour contenir. Moi, à plusieurs reprises, je suis intervenu pour faire sortir les journalistes incarcérés pour des propos, pour des comportements qui étaient effectivement violents vis-à-vis de tiers, principalement des responsables, etc. Il y en a un ou deux en ce moment, encore au Makala. Il n'est pas dit que...
Ce qui n'est pas une bonne chose.
Oui. Il n'est pas dit que pour être bon journaliste, il faut insulter. Regardez ce qui se font appeler journalistes engagés. La manière dont ils traitent l'information.
Moi, d'ailleurs, vous-même, justement, en tant que responsable, que comprenez-vous à travers ce terme qui est assez difficile à
expliquer? C'est galvaudé.
Journaliste engagé.
C'est galvaudé. Engagé veut dire que je fais du militantisme pro-opposition pour invectiver le pouvoir, parce que je ne partage pas les mêmes points de vue que le pouvoir.
C'est que l'éthique et la déontologie, vous insistez.
Interdit absolument. Le CESAC, parce que Moussang l'a dit tout à l'heure, mais nous, UNPC, combien de fois nous avons pris des sanctions vis-à-vis de tel ou tel journaliste? Il y en a même qui ne reconnaissent même pas l'autorité de l'UNPC si on ne monte pas un peu le ton pour dire il faut respecter, nous sommes la seule structure qui vous gouverne. Le CESAC a pris une disposition, alors simple, journaliste candidat, il faut vous mettre en recul par rapport à vos activités pendant cette période. Qu'est-ce que nous n'avons pas vécu personnellement en tant que président de l'UNPC Kinshasa, le président national Tshilunde, le président du CESAC? On a même organisé une conférence, je pense que vous y étiez d'ailleurs, avec Yves Tivoali, pour rappeler la circulaire qui est mise en place. Il y en a qui ne respectent même pas cette disposition. C'est pour vous dire quoi? Un journaliste candidat, lorsqu'il a en face de lui un adversaire politique, que voulez-vous qu'il tienne comme discours que celui d'invectiver, d'avoir parfois des propos qui sont discourtois vis-à-vis de ses candidats, enfin, de son challenger? Et nous sommes là pour ramasser tout ceci, pour rappeler que nous ne pouvons pas faire le jeu. Moi, je ne fais pas le jeu de ceux qui pensent que nous avons une mauvaise presse. pas plus que dans d'autres pays.
Merci Jean-Marie Kassamba, coordonnateur du journal Le Phare, paraissant à Kinshasa. Fidèle Moussangou, pour vous, cette réflexion qui nous vient de Lubumbashi.
Émile Mwilambwe, depuis Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Les médias ont un mandat d'informer les citoyens sur les partis politiques et les candidats participant aux élections et leurs programmes respectifs et de contribuer à la formation de l'opinion de l'électorat. Dans un contexte démocratique, l'objectif général de la couverture médiatique pendant le processus électoral est la diffusion des reportages et des informations justes et impartiaux. Malheureusement, les médias congolais sont souvent manipulés par leurs promoteurs, surtout si ces médias appartiennent à l'État ou au privé, afin de transmettre des opinions en leur faveur. Quant aux médias dits communautaires, leurs gestionnaires se laissent souvent corrompre. Le risque de tous ces abus à des fins de propagande électorale peut être limité par l'adoption et le suivi d'itinérance de la mise en application de lois et règlements précisant le rôle des médias dans les campagnes électorales.
Fidèle Moussangou. Fidèle Moussangou, est-ce que vous êtes avec nous? Allô, Fidèle Moussangou? Nous devons récupérer Fidèle Moussangou, qui en principe est perdu dans les voies de la communication. Éditeur du journal La Prospérité paraissant à Kinshasa, Marcel Ngoï, pour vous, nous allons écouter plutôt cette réaction qui nous vient de Kananga.
Peter Mabudi, province du Kasaï central, ville de Kanan. Tant que les journalistes sont toujours victimes de violences et d'intimidation politicienne, ils sont contraints de dénoncer le mal qui ronge la société congolaise. La création de certains médias par les politiques pour leur publicité ne laisse pas la liberté aux journalistes qui sont appelés à servir le leader du média sur base de son poids et fait de particuliers qui sont aussi victimes des pressions violentes du camp qui est élevé, voire même leur fermeture. Ainsi, bien que les cas de violence sont enregistrés en cette période, pour limiter, il est nécessaire de rendre les médias indépendants, ici d'un organe neutre sans ingérence de l'État. Avoir une loi portant création, fonctionnement et gestion des médias, y compris celle garantissant la loi, la vie des journalistes avec des mesures contraignantes en termes de sanctions, loin des codes d'éthique et d'ontologie des journalistes qui s'appliquent à l'interne.
Marcel, cet auditeur pense que, entre autres, hein, les journalistes sont livrés un peu à servir d'agents publicitaires.
Bon, je crois que il y a à manger et à boire. J'ai toujours pensé que il y a des responsabilités partagées. Donc il n'y a pas des saints d'un côté et de l'autre côté le royaume du diable. Ce qu'il faut retenir est que tant qu'on n'aura pas un regard critique vis-à-vis de ce qui se passe dans notre société, on biaisera le débat, on faussera la donne, on partira de mauvaises prémices pour dégager littéralement des fausses conclusions qui feront que notre société périclite et qu'elle marche progressivement vers un précipice. J'ai toujours pensé que ce monde ici, y compris le monde de la presse, s'il n'existe pas encore un bon monde, il faut le réinventer. Et donc, il nous faut du courage, une sorte de mercurial, pour pouvoir, une thérapeutique de choc, pour ramener toutes les brebis scrofuleuses sur le chemin de ce qu'il faut faire réellement comme travail. Moi, je pense personnellement que tant qu'on regardera tout ce qui se passe sous les prismes des positions d'intérêt politique et même tout le reste de la réaction qu'on peut apporter vis-à-vis de tout ce qui se passe, nous allons taper à côté de la plaque. Donc, je crois fondamentalement que l'heure est arrivée où il faut absolument... la liberté à laquelle Jean-Marie faisait allusion tout à l'heure ne l'est pas forcément pour certains médias de certains leaders proches de l'opposition. Allusion faite ici aux mesures de crispation politique qui avaient été prévues dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il était prévu notamment qu'on puisse libéraliser ou libérer ou réactiver les médias proches de certains opposants, plus particulièrement dans le Haut-Katanga.
Marcel Ngoï, pensez-vous que ce qui est en cause aujourd'hui et qui expose justement les journalistes à relayer cette violence, c'est plutôt peut-être la dose trop poussée de militantisme et de fanatisme qui est ancré déjà dans le chef des journalistes eux-mêmes qui traitent l'information. Est-ce que ce n'est pas ça plutôt qui est le vrai problème de ces violences relayées?
Oui, mais disons que l'adhésion au courant politique, aux activités des partis politiques, le fait même d'être au centre de certaines activités des partis politiques, des candidatures qu'il faut soutenir, ça fait que, quelque part, le journaliste s'engage et que l'exercice même de sa profession se trouve entaché par le fait qu'il est difficile de dissocier l'exercice de la profession en toute impartialité, en toute indépendance, de l'intérêt politique au service duquel on s'est engagé. C'est à ce niveau-là. Le jour où on fournira un effort de sortir du ghetto, de pouvoir se détacher de ce qu'on a comme intérêt politique, à savoir que le journaliste, tout en étant journaliste, il est aussi citoyen. Il peut s'engager. Et que pendant que la période qu'il est engagé ou qu'il s'est engagé, quel est le comportement qu'il faut adopter? Quelle est l'attitude qu'il faut observer? C'est ça. Quand il y a une circulaire, c'est justement pour tenter de réguler, de ramener de l'ordre dans la boutique.
Alors, tout à l'heure, on a Jean-Marie Kassamba et vous avez déjà pointé du doigt le rôle des instances, notamment le CESAC. À votre avis, que devriez faire le CESAC dans ce genre de situation?
Il y a deux types d'attitudes. D'un côté, c'est du côté de la réglementation. Lorsqu'un média ne respecte pas les normes préétablies, les normes qui existent, il y a l'autorité, non pas des régulations, mais d'abord la réglementation, c'est le ministère qui peut, en cas de besoin, étudier et examiner le cahier des charges de chaque média pour voir si ces médias respectent ce qu'il faut faire. Et ça, c'est le ministère. Mais la régulation, c'est le comportement. Là, il y a un code, il y a des normes, il y a même le code de bonne conduite qui a été adopté en période électorale, qui édicte un certain nombre de normes et de règles qu'il faut respecter. Là, il faut que le régulateur fasse son travail. Le travail, c'est faire observer. Mais lorsque vous avez des journalistes, des médias qui ne sont pas listés, qui ne sont ni reconnus au ministère, ni même reconnus au niveau du CESAC, ou même de la profession au niveau de l'UNPC,
merci,
qu'on appelle généralement des moutons noirs. Et ils sont nombreux, des médias qui n'ont aucune référence, ni d'adresse, ni même un numéro d'enregistrement. Mais ils opèrent, ces médias-là, et ils sont nombreux. Ils vont jusqu'à priver les gens, jusqu'à octroyer les diplômes. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle catégorie de médias qui s'est déclarée dans notre pays, c'est les médias dits en ligne, qui sont nombreux, certes, mais il faut arriver aussi à fournir un effort de réguler.
Merci.
Tout ça.
Merci.
Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont investis de toutes sortes d'informations et ceux qui investissent ces informations ne sont pas forcément des professionnels.
Marcel Ngoï, je vous remercie. Le temps de retrouver Fidèle Moussangou. Vous êtes là, Fidèle?
Oui, mon cher ami, je suis
content de vous retrouver. Et justement, ça nous permet de mettre à votre disposition la réaction qui vous était réellement attribuée, parce que tout à l'heure, on s'est rendu compte que nous sommes allés un peu rapidement en besogne. Nous allons, pour vous, ensemble, écouter cette réaction qui nous vient du Maniema.
Somaï David Moussafiri, depuis la province du Maniema. De mon humble analyse, la dénonciation à la violence et à la tribalisation électorale par les journalistes ne suffit pas, d'autant plus que plusieurs journalistes sont aussi infiltrés dans la politique et ne font que parler à l'intérêt de leurs candidats qu'ils soutiennent d'une façon tribaliste. En outre, ceux qui se donnent pour dénoncer quelque chose de ça ne va pas dans le pays, ils sont toujours assassinés et les autres perdent même leur carrière à cause de dire la vérité.
Fidèle Moussangou, cette réaction?
Non, écoutez, c'est une réaction d'une personne qui vraiment ce qu'on appelle traduit ce qu'on appelle l'état des médias au Congo. Vous savez, nous sommes le pays qui compte le plus grand nombre de journalistes assassinés. Et curieusement, par les services de sécurité civile ou militaire. Je peux en compter, même nous avons des amis. Moi, je n'ai jamais déploré mon ami Franck Ngike, un excellent journaliste, une belle plume qui est partie, assassinée par le pouvoir. Le procès s'est passé dans des circonstances très floues.
Mais Fidèle Moussangou, vous n'allez pas dire que la RDC a plus de journalistes assassinés que la Chine, par exemple, non?
La Chine n'assassine pas, on en compte. La Chine, on arrête. Mais ici, il y en a plus. Je vous dis, il y a une année, là, avant les élections de 2004-2006, chaque année, un journaliste a été assassiné. Je peux vous en citer 5. Et le plus célèbre, c'est mon ami Franguique. Il y a Mwamba Bapoua. Et toujours à la maison, des gens viennent, ils les cherchent autre chose qu'assassiner, puis ils s'en vont. Donc, les assassins viennent de l'intérieur, ils sont au service du pouvoir, assassinent les journalistes et disparaissent lentement. Oui. Ça, la Chine compte pas ça, la Chine quand on assassine. D'abord, ici, nous avons des règles, nous avons la démocratie, nous avons la loi sur la liberté de la presse, même s'il y a des lacunes, mais c'est pas pour autant qu'il faut assassiner un journaliste.
Alors, Fidèle Moussangou, comment expliquer justement que ces informations liées à la violence arrivent très rapidement dans les médias? Certaines personnes disent que c'est notamment parce que les journalistes sont trop engagés, et on peut peut-être dire que ce n'est pas faux quand on constate que les journalistes de la RDC sont, en tout cas dans cette période-ci, pour certains, aussi bien journalistes que candidats à des postes électifs.
Écoutez, le problème est que la plupart des médias appartiennent aux hommes politiques. Je vais vous raconter une histoire avec le président Minankou. Minankou a eu des problèmes un jour. Des gens sont venus chez lui avec des morasses en disant « Nous sommes en route vers l'imprimerie. Si vous ne payez pas, nous on fuit. » Alors, Minankou a eu la présence, c'est son directeur de cabinet, un avocat, qui a vite appelé la justice. Un procureur est arrivé à procéder à l'arrest. Quand on a vérifié, ils étaient à 4. Nous, on n'avait même pas la carte de presse. La dame avait une vieille carte de l'époque de Lupé, vous voyez. Donc, c'est ce qu'on appelle la presse des Matongais, des journalistes, comme l'a dit mon confrère Marcel Ngoy. Ils n'ont ni siège, et les journalistes ne sont même pas reconnus par l'ULPC. Ils n'ont pas la carte de presse. Vous voyez, parce que pour être nous, il faut avoir la carte de l'ULPC. C'est le seul organe habilité par la loi à accorder la qualité de journaliste à une personne qui remplit les conditions. Alors, voilà maintenant qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de hommes politiques ont des journaux à eux. Moi, j'en connais même quelqu'un, un procureur de la République, qui a un journal. Et le siège se trouve dans son cabinet. Vous voyez? Alors, je ne vous dis pas les autres qui sont financés. Nous en connaissons, mais les financements. Et puis, écoutez, je vais vous donner un exemple. Moi, quand vous venez chez moi, vous dites, non, vous voulez prendre un abonnement. Oui, je vous signe une facture, l'abonnement pour l'heure. Mais quand vous dites, non, je vais commencer à vous payer 5 000 € par mois, et j'ai pas assez, mais il dit, non. Vous allez nous envoyer votre information, nous allons vérifier si l'information est potable et si elle respecte les normes et les lois. Sinon, je ne prends pas les 5 000 €, mais ça, je ne prends pas ça. Il y a beaucoup de journaux qui fonctionnent comme ça. Nous ne parlons pas de la télévision. Là, c'est vraiment ça, c'est un monde, c'est un panier de crabes, l'audiovisuel.
Merci. Merci Fidèle Moussangou. Pour Jean-Marie Kassamba, nous allons justement réécouter cette réflexion qui vient de Lubumbashi.
Émile Mwilambwe depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Les médias ont un mandat d'informer les citoyens sur les partis politiques et les candidats participant aux élections et leurs programmes respectifs et de contribuer à la formation de l'opinion de l'électorat. Dans un contexte démocratique, l'objectif général de la couverture médiatique pendant le processus électoral est la diffusion des reportages et des informations justes et impartiaux.
Merci. Jean-Marie Kassamba, votre réaction?
Bon, c'est une définition, tout ce qu'il y a de plus simple, de ce que nous devons faire comme travail. Mais j'aimerais d'abord revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne vous suivrai pas dans cette opération de dénigrement de la presse de mon pays.
Mais lorsqu'on dit par exemple qu'il y a violence et que la presse relaie...
Attendez, on ne peut pas
dire... Ce n'est pas nous.
On ne peut pas dire que les médias congolais sont manipulés et que le média congolais travaille pour des causes. Mais RFI travaille pour la cause française. Elle est financée par le ministère français des Affaires étrangères. France 24 aussi. Radio Okapi aussi. Travaille pour des intérêts, des certaines causes, des certaines puissances, etc. Toutes les lignes éditoriales qui sont appliquées dans tel ou tel média répondent bien aux causes.
Est-ce que Télé 50 est aussi
bien évidemment,
pouvoir en place?
Ah non, du tout, Télé 50 est pour la cause congolaise. C'est pour ça que je refuse, pendant cette période électorale, qu'on puisse commencer à dire que les Congolais ne sont pas capables d'avoir une presse, ma foi. Allez en France. Lorsqu'il y a la guerre en Libye, Est-ce que vous voyez une presse française condamner la France?
Mais est-ce qu'Internews n'a pas raison de ramener tout le monde et toutes les presses qui travaillent pour la cause
à faire le journalisme comme il faut? Ouvre un dossier pour que votre regard se tourne vers là-bas, pour que vous puissiez vous délecter des insuffisances de votre métier, alors qu'ailleurs, ça se passe comme ça. Lorsque un journaliste de CNN, on lui confisque le micro à la Maison Blanche par le président américain, c'est de la liberté de la presse? Non, j'ai dit ceci, je rappelle encore que nous avons une presse pluraliste. Nous avons une presse qui a aussi des gens engagés. Il y a le Figaro en France pour la droite, comme il y a CNN, en ce moment il y a un débat aux États-Unis, une guerre entre la presse et le président américain.
Mais Jean-Marie Kassamba, Internews ici, hein, qui a organisé, je cite...
Ce sont les Américains.
Oui, je ne veux pas...
Ce sont les Américains.
Je ne vais pas dire que ce...
Ils sont là pour une cause.
Ce débat n'est pas que le débat d'Internews, mais le séminaire a été organisé par eux.
Oui, mais pour quel objectif?
Je vais bien rappeler que aussi bien les autorités congolaises, que les médias congolais, que les analystes congolais, que même le Conseil de sécurité de l'ONU a dénoncé des actes de violence et a appelé tout le monde à l'apaisement.
Mais il n'y a pas pire qu'ailleurs. Je rappelle que on a tué un journaliste saoudien.
Pensez-vous qu'une campagne où la violence est relayée à tout va, où rien n'est filtré, elle est plus heureuse qu'une campagne un peu orientée
filtrée? Il faut tout simplement rappeler tout le monde à l'ordre, comme l'a fait le Conseil de sécurité des Nations Unies, comme l'a fait le CESAC. Le CESAC a publié un communiqué, pas plus qu'hier, je pense que Marcel l'a, ce communiqué. Comme l'a fait régulièrement la CENI, comme le gouvernement congolais l'a fait. Chaque parti politique, y compris les leaders de l'opposition, devrait faire la même chose.
Un peu comme Radio Capi le fait ce soir.
Je salue. C'est pour ça que je suis là en tant que président de l'UNPC, pour dire que Radio Capi fait partie des médias de Kinshasa, fait du bon travail lorsqu'il est question de parler de la situation politique, électorale dans notre pays. Mais il ne faut pas prendre cette opération comme une espèce d'auto-flagellation de notre métier, dire que les Congolais ne sont pas capables d'avoir une presse qui tient la route. Non.
Votre message est passé, Jean-Marie Kassamba.
Mon message suivant.
Notre émission est en train de tirer vers la fin et vous avez le droit à votre mot de la fin. Qu'est-ce qu'il faut justement exactement faire pour que la presse congolaise soit totalement agréable, comme vous semblez le soutenir, et surtout comment faire face à ces journalistes qui sont à la fois journalistes et candidats en période électorale?
Nous avons pris la résolution pour que ces journalistes soient en recul. Lorsque nous sanctionnons les journalistes, justement, qui ne sont pas journalistes, ceux qui viennent les défendre, c'est ceux qui font des conférences de presse et tout ça. Ils ne se posent même pas la question, tel qui a été arrêté pour diffamation, est-ce qu'il est journaliste ou pas? Tel qui a donc pour lequel on a fermé ces médias, est-ce que c'est un média officiel ou pas? On dit tout simplement, en RDC, on a fermé un journal, on a arrêté un journaliste, alors que ces gens-là ne sont pas du tout journalistes. Il ne faut pas que, ici, pendant cette période électorale, qu'on puisse détourner le débat, qu'on puisse stigmatiser les Congolais, dire que nous ne sommes pas capables d'organiser cette poussée électorale, qu'il y a trop de violence, et que c'est parce qu'il y aura de violence que les élections ne seront pas crédibles. Ces élections seront crédibles, ce sont les élections financées par les Congolais, avec la presse congolaise, on a quelques médias africains ou internationaux qui sont ici à Kinshasa, ils vont faire ce travail, qu'on arrête cette stratégie de penser que les Congolais ne sont pas capables, qu'il y a trop de violence, c'est faux, c'est alarmiste pour rien.
Merci Marcel Ngoy, juste quelques secondes. Que faut-il faire devant cette triptyque force financière, militantisme et conflit d'intérêts qui favorise peut-être la violence?
Oui, moi je crois qu'il faut développer la passion d'informer sans passion. Il faut arriver à pouvoir regarder en direction des valeurs. C'est vrai qu'il n'y aura jamais d'unanimité. Les lignes éditoriales seront toujours distinctes les unes des autres.
Merci Marcel Ngoy. Fidèle Moussango, en quelques secondes, que faut-il faire?
Il faut revenir à la loi sur la liberté de la presse. Et ensuite, il faut que le président de la République signe rapidement la loi sur la dépénalisation du libre de presse qui fait...
Merci. Willem Lungamba, Guy Maté, Alain Irung, Félix Kipelamondo m'ont aidé pour cette émission. Dona Madimba, c'est moi. Merci et à la prochaine.